Méditation. Méditation, une contemplation des Écritures saintes proposée par Monseigneur Le Gall.
Voilà, chers auditeurs, nous voilà retournés au début de la Bible, donc à la Genèse, et pour faire mieux connaissance avec les personnages de l'Écriture, des personnages de l'histoire sainte, comme on dit autrefois, enfin de toute l'histoire du salut, comme on dit plus précisément avec le Concile Vatican II. Et cette histoire du salut comporte des personnes qui ont été proches de Dieu et qui ont été les amis de Dieu. C'est un mot que j'aime employer, donc les premiers amis de Dieu. Nous allons faire connaissance avec eux en relisant la Genèse et l'Exode. On peut dire que face à Dieu, l'homme prend naturellement l'attitude du serviteur. Même s'il est habité par un désir irrépressible de communion à la divinité, ce dont témoignent toutes les religions, et du plus ou du moins, et donc il a conscience de la distance qui existe entre lui et Dieu, on l'appelle le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Tout-Autre, le Transcendant. Et nous ne sommes que cendre et poussière, selon l'expression d'Abraham, intercédant pour Sodome. Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre. Et j'ai déjà évoqué dans cette antenne mon dialogue avec un moine bouddhiste tibétain. Dans les discussions que nous avons eues, où chacun témoignait de sa religion, moi et ma religion comme moine, tous les deux, moine catholique et moine bouddhiste, et quand on essayait de demander pour qui il courait, si je puis dire, pour qui il vivait, et donc moi j'essayais de dire le Dieu est Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dont qui nous sommes baptisés, et à la vie duquel nous voulons participer de plus en plus. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils aient la vie en abondance. Voilà ce que j'ai essayé de dire dans ce livre qui est devenu un livre, le moine et le lama. Et oui, lui ne répondait pas. Donc pour lui, qu'est-ce que c'est non pas Dieu, parce qu'il ne voulait pas dire qu'il y a un Dieu, non pas le transcendant, ce n'était pas son mot non plus, mais c'était le mot l'absolu, c'est un mot qui revenait plus souvent chez lui. Et j'ai compris un peu plus tard que, d'après leur réflexion bouddhiste, ils s'interdisent de parler de ce qu'ils n'ont pas expérimenté encore. Donc ils s'interdisent de parler de Dieu s'ils n'ont pas fait l'expérience de Dieu. Et donc il a fini par lâcher, au bout d'un moment, cette formule qui m'a beaucoup séduit et dont j'ai fait le thème d'une conférence quand j'étais arrivé à Toulouse, à l'Académie des Jeux Floraux, c'est le saphir et l'azur. Parce que lui, il m'a répondu ceci. Donc l'absolu, c'est l'azur très pur. Donc le ciel bleu, c'est une image. Et rappelez-vous, je vous en ai parlé déjà, j'ai pensé tout de suite à un chapitre de l'Exode, le chapitre 24e de l'Exode, où Moïse, montant sur le Sinaï, avec quelques notables, quelques privilégiés, comme les apôtres sur le serment sur la montagne, ou plus encore les trois, Pierre, Jacques et Jean, sur le Tabor, où il voit Moïse et Élie, et donc ils virent le Dieu d'Israël, c'était comme un pavement de saphir. Ah, saphir. C'est l'azur très pur, c'est le saphir, qui est bleu. Donc le saphir et l'azur, j'ai relu donc l'Exode 24, j'ai relu le début d'Ézéchiel, j'ai relu l'Apocalypse, et qui montre un petit peu ce mystère de Dieu qui est toujours l'au-delà. Toujours au-dessus, comme dit Saint Grégoire de Nice. Et donc nous avons conscience face au mystère de Dieu que nous n'avons pas grand-chose. Et toute prière doit s'établir sur la vérité fondamentale de ce que nous sommes, comme créatures déjà, et comme pécheurs ensuite. Notre condition native est celle du serviteur, tel est notre humus, notre plateforme, si on veut dire, de départ, le sol étendu sous l'immensité des cieux. Mais ne pensons pas non plus quelque chose de vil dans cette attitude que dépeint l'Écriture à plusieurs reprises. D'ailleurs, dans Isaïe, les chants du serviteur de Dieu qui prélude à la mission de Jésus comme serviteur de Dieu. Je ne suis pas venu pour être servi, dit Jésus, mais pour servir. Donc Jésus s'est dit serviteur. Donc la condition de serviteur qui est la d'autre, qui a voulu épouser Jésus, et n'en ayons pas honte. Et le psaume 123, 1, 2, 3, c'est facile à retenir, le psaume 123 chante ainsi: « Vers toi j'ai les yeux levés, toi qui te tiens au ciel. Les voici comme les yeux des serviteurs vers la main de leur maître, comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous prenne en pitié. » Donc, le regard du serviteur n'est pas un regard de servilité, mais d'imploration confiante. L'imploration, mais confiante. Le pauvre porte son cœur vers la main toute puissante de celui qui peut subvenir à sa misère. Et toute cette attitude est donc empreinte de désir, d'attente et surtout de confiance. Il ne s'agit pas d'une dialectique du maître et de l'esclave telle que la philosophie de Marx l'a pu le répondre. Un antagonisme de ce type-là fausse les relations cordiales qui doivent exister entre un maître et son serviteur. Dans les sociétés antiques, le serviteur était lié à son maître par les liens nuancés d'une véritable affection. Il faisait partie de la famille et sa condition était voisine de celle des enfants. Il faudrait, pour bien le comprendre, retrouver le sens originel du mot « domestique ». Il désigne celui qui habite la maison, domus. Domesticus, c'est l'adjectif celui qui est dans la maison, qui habite la maison, qui est dans le calme et la beauté de la maison.